Café Bazar. Elisabeth et Eric vous parlent de l'Europe, de ses origines, de ce qu'elle était, de ce qu'elle est et de ce qu'elle devient. Aujourd'hui, la situation des Roms en Europe. Première partie.
Alors les Roms, j'utilise volontairement cette dénomination-là. En fait, on les appelle Romanichel, on les appelle aussi forains. Pourquoi les appelle-t-on forains ? Parce qu'au Moyen-Âge, le mot forain signifiait étranger. Et que donc, cette population étant par essence nomade, ils étaient étrangers partout où ils arrivaient. Et donc, on les traitait de forains et on les insultait aussi du nom de forains. Bon, moi, je ne vais pas développer là-dessus, mais est-ce que vous pensez que cette population est un peuple ? Est-ce qu'elle peut avoir un drapeau ? Est-ce que l'idée vous est déjà venue qu'elle puisse avoir un drapeau ? Eh bien, moi, avant de m'intéresser à ces populations, je pensais qu'elle n'en avait pas. Elle en a un, et je vais passer la parole à Eric qui va vous en parler.
Bien. En effet, bon, la communauté Rome a un drapeau. Un drapeau donc, qui représente la nation Romani. Hein, Romani qui bon, est une nation qui vit sur plusieurs États, hein, pratiquement dans tous les pays d'Europe. On retrouve des représentants de cette communauté Rome. Leur drapeau est constitué de deux bandes de couleurs horizontales. Hein, d'un côté, le bleu, en haut, donc du drapeau, qui symbolise bon, le ciel. Et en bas du drapeau, la couleur verte, qui symbolise l'herbe. Donc là aussi, bon, c'est un symbole de la liberté, hein, du nomadisme des populations roms dans toute l'Europe. Et au centre du drapeau, une roue rouge qui symbolise la roulotte. Donc voilà les caractéristiques du drapeau des Roms.
Bien. Eric, est-ce qu'on les appelle encore autrement ?
Oui, alors bon.
Roms, forains.
Exactement. Bon, cette population porte différents noms suivant les pays traversés. Par exemple, cette population Roms porte le nom de bohémien. L'origine du mot bohémien vient de la Bohême, c'est-à-dire située dans l'ouest de la Tchécoslovaquie d'avant, ou aujourd'hui la République tchèque, parce que cette population était passée par ce territoire, la Bohême, ou autre appellation, tzigane ou gitan. Et le mot tzigane ou gitan, en fait, vient du mot Égypte, parce qu'on pensait que cette population venait d'Égypte. Donc, un peuple qui a beaucoup d'appellations suivant les pays traversés par donc ce peuple nomade.
Pourquoi est-ce que c'est un peuple dont on parle assez peu ?
Oui, alors c'est vrai que c'est l'une des particularités. Par exemple, si on prend les études qui sont consacrées à l'extermination des populations roms pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a très peu d'écrits. Bon, par exemple, dans les manuels scolaires d'histoire, l'extermination des Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale occupe très peu de place, par exemple, par rapport à l'extermination des Juifs d'Europe.
Et comment explique-t-on cette situation injuste ?
Alors, en fait, il y a eu très peu d'écrits, notamment très peu d'écrits de la part de la communauté Rome. Pour celle-ci, il fallait tourner la page le plus vite possible. Et puis, très peu aussi d'intellectuels qui auraient pu servir de relais afin de faire connaître, en fait, cette extermination de cette population pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a un autre facteur, c'est que la culture rome est essentiellement une culture de l'oral et non de l'écrit. Par exemple, le romani est une langue parlée et non écrite.
Donc on peut raisonnablement penser qu'avec l'évolution, ces langues vont tout doucement disparaître, comme les langues des Indiens en Amérique ou des Indiens d'Amazonie, etc. S'il n'y a pas de trace écrite, on peut raisonnablement penser que ça ne va pas survivre.
Oui, ou alors uniquement, bon, disons, à l'intérieur, ce serait un parler uniquement local à l'intérieur de la communauté, quoi. Mais c'est vrai que, cette langue est peu connue.
Donc voilà ce qui explique qu'on ait aussi peu de traces. Mais en même temps, peut-être que les pays dans lesquels vivent ces communautés, les autorités de ces pays n'ont peut-être pas cherché non plus à provoquer le témoignage. Ils ne sont peut-être pas allés chercher les informations non plus auprès de ces populations. Ça peut peut-être s'expliquer comme ça aussi.
Oui, c'est vrai. De la part du pouvoir politique, bon, voilà, il fallait tourner la page et surtout bon, ne plus en parler, quoi. D'autant plus que dans la plupart de ces pays, les pays d'Europe centrale, comme la Hongrie, donc Roumanie, etc., ces pays, juste après la Seconde Guerre mondiale, sont tombés dans la dictature communiste. Donc, ce qui s'était passé pendant la guerre, etc., il fallait tourner, donc ne plus en parler.
Oui, donc ils ont quelque part... Pendant un certain nombre d'années, cessé d'exister, entre guillemets.
Voilà.
Puis les voilà revenus sur le devant de la scène, si je puis dire. Alors à propos de devant de scène, ils sont à peu près combien, ceux qu'on considère comme les Roms ?
Oui, actuellement, bon, dans l'Union européenne, ils sont environ 7 millions, dans toute l'Union européenne.
Ah, tout de même ?
Oui, y compris donc les nouveaux États membres, hein, Roumanie, Bulgarie, en tout donc 7 millions de Roms.
Et qui viennent d'où, alors ?
Alors, leur origine, en fait, l'origine des Roms se trouve en Inde, hein, dans le nord de l'Inde, le nord-ouest de l'Inde, le Pendjab, le Rajasthan. C'est en fait une caste de forgerons, hein, une caste, donc c'est un groupe social en Inde, qui a commencé à émigrer au début du Moyen-Âge, à émigrer donc vers le continent européen, vers l'ouest.
Mmh. Et on n'a pas d'explication pourquoi cette caste-là s'est mise à partir et pour venir en
Europe. J'ai essayé de trouver en fait l'origine du mouvement migratoire de cette population du nord-ouest de l'Inde, mais je n'ai pas trouvé. Alors certains pensent que ce serait lié à la sécheresse, avec des facteurs climatiques.
Et
bon,
voilà.
Et bon, c'était essentiellement un groupe qui travaillait le fer et le feu, un groupe de forgerons, donc qui est parti vers l'ouest, vers l'Europe. Et donc, ils ont traversé toute l'Europe en venant donc de l'Est. Et c'est pour cette raison que les plus importantes communautés roms se trouvent dans l'Est de l'Europe.
Oui, donc ils se sont arrêtés d'abord dans l'Est de l'Europe, puis après de l'Est de l'Europe, il y a une partie qui s'est déplacée pour aller plus loin, etc.
Exactement, donc c'est-à-dire vers ce qu'on appelait donc le Royaume de France, enfin, l'Allemagne, le Royaume de France et l'Espagne. Alors au Moyen-Âge, quand cette population est arrivée, vers le XIVe siècle, cette population a été relativement bien accueillie.
Et pourquoi bien ?
Bon, parce que en fait, il suscitait la curiosité des populations par leur accoutrement, etc., par leurs mœurs un peu bizarres. Bon, ils lisaient l'aventure, etc., la bonne aventure, quoi. Et donc, et généralement, bon, ces populations roms ont été recrutées comme mercenaires par les souverains européens.
Ah oui.
Comme c'était des bandes nomades,
oui,
ils étaient donc recrutés comme troupes auxiliaires par les souverains donc, d'Allemagne, de France, de l'Empire d'Autriche-Hongrie.
Donc ils avaient leur place, ils rendaient des services.
Voilà, c'est ça. Et bon, généralement, leur fonction, leur profession, c'était forgeron, vendeur de chevaux, vendeur ambulant, voilà.
Alors après cette petite respiration, on va poursuivre en se posant d'abord la question de savoir comment ces Roms se sont-ils répartis en Occident.
Oui. Alors je voudrais revenir sur un point. Bon, j'avais dit au début qu'au Moyen-Âge, lorsque les Roms sont arrivés dans l'Europe, ils ont été relativement bien accueillis, et cela jusqu'au, XVIIe siècle, où là, en fait, vont commencer les persécutions anti-Roms. Alors ça s'explique, selon... par plusieurs facteurs, notamment bon, par l'influence de l'Église catholique, qui estimait que les populations roms étaient des adeptes de la magie noire, parce qu'ils lisaient, donc, disons, lisaient La Bonne Aventure, etc. Et ça a été une rupture. Hein. À partir de là, il y a eu véritablement un rejet. Oui. Et ça, dans toute l'Europe. Par exemple, dans l'actuelle Roumanie ou Bulgarie, les Roms étaient vendus comme esclaves. Vendus comme esclaves jusqu'au XIXe siècle. En Espagne, bon, même chose, ils ont été envoyés aux galères, contraints de se sédentariser, afin de mieux contrôler ces populations. Et c'est à partir de là que sont nés tous les clichés.
Oui. Hein,
les stéréotypes du Rom, du Tzigane, bohémien, voleur, oui. Donc fourbe, etc.
Oui, charlatan.
Voilà, enfin, voilà quoi, oui. Ouais. Voleur d'enfants, oui. Bon, voilà.
On peut peut-être voir un petit peu comment ça se répartit dans l'Europe, à peu près dans quel pays y en a-t-il, la communauté est-elle la plus importante ?
Oui. Alors les communautés roms les plus importantes, les plus nombreuses, bon, se situent dans le sud-est de l'Europe, hein, dans ce qu'on appelle bon, aujourd'hui les Balkans, hein, l'Europe du sud-est. Alors particulièrement, le pays où la communauté roms est la plus nombreuse, c'est la Roumanie, avec plus de 1,8 million de roms. Après la Bulgarie, donc plus de 600 000, la Hongrie, la Serbie. En fait, c'est là où comment les communautés sont les plus nombreuses, et c'est par là où elles sont arrivées.
Oui.
Elles sont entrées en Europe. Bon, si on prend le cas, par exemple, de la France, la communauté rome s'établit à 400 000.
Oui, c'est quand même pas négligeable. Et quelle est leur situation dans ces pays ?
Alors, la situation des communautés roms dans les pays de l'Europe centrale orientale est particulièrement difficile. Puisque c'est une population qui est directement touchée par la misère. Un exemple, bon, prenons le cas de la Roumanie. Le taux de pauvreté en Roumanie chez les Roms est de plus de 63%. C'est-à-dire plus de 63% de la communauté Roms vit en dessous du seuil de pauvreté. Alors que les non-Roms, le taux de pauvreté est de 16,8%.
Oui.
On retrouve la même chose donc en Bulgarie. Et bon, en ce qui concerne la population, par exemple, roumaine, la population rome plutôt, celle-ci est, disons, en partie nomade. Il y a encore des roms nomades sur les routes de Roumanie et en grande partie sédentarisés. Et disons que bon, la majeure partie de la communauté rome en Europe centrale et orientale étant sédentarisée, cela a été voulu, c'est lié à une politique qui a été imposée par le pouvoir communiste après la Seconde Guerre mondiale, qui a obligé donc cette population rome à
se fixer,
oui.
Comment explique-t-on le fait qu'ils restent pauvres,
oui.
Que la communauté reste pauvre, que même les enfants qui sont de la Xème génération n'accèdent pas à un statut social intermédiaire, enfin, ne se marient pas, par exemple, avec quelqu'un de non-Rome, et pour, enfin, et voilà quoi.
Oui. En fait, là encore une fois, bon, c'est lié à plusieurs facteurs. Bon, c'est lié aux préjugés dont sont victimes les communautés roms. Alors bon, si je prends le cas de la Roumanie, il existe un racisme assez fort vis-à-vis bon, de la communauté roms. Ils sont notamment perçus comme étant des personnes vivant de l'aide sociale. Et puis aussi, bon, on les accuse, notamment on les a accusés pendant la période de la dictature communiste de Ceausescu en Roumanie, on les accusait d'être des agents délateurs, dont il fallait se méfier, parce qu'ils renseignaient le pouvoir communiste, etc. Donc il y a toute une série de facteurs.
Alors peut-être que n'ayant pas d'autres moyens de subsistance... C'est vrai ou c'est pas vrai, on n'en sait rien. Mais accuser des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté de vivre de l'aide sociale, de toute façon, c'est pas une accusation. C'est-à-dire, en dehors de l'aide sociale, qu'est-ce qui leur reste ?
Oui. Hein. C'est clair.
Bon, mais en même temps, d'après ce que moi j'ai lu, il me semble que quand on est Rome, on ne se commet pas avec des non-Roms.
Oui,
donc, on s'enferme toujours. Oui. Enfin, on a cette impression. Moi, je l'ai lu seulement. Oui. On a l'impression que on s'enferme, oui. On s'auto-enferme, quoi.
C'est vrai que
C'est difficile à comprendre parce que
une communauté, bon, fermée, quoi. Bon, le non-Rome, c'est le gadjo,
oui.
Ou le gadjé. Et il y a très peu, bon, de
notamment des mariages mixtes, voilà, des mariages enfants mixtes, nés d'union,
de mélange, etc. Bon, ça provient, je pense, des deux communautés. D'un côté, bon, la majorité non-Rome qui refuse, bon, à cause justement des clichés, etc. Et puis de l'autre, bon, on se marie qu'entre membres de la communauté. Donc c'est des deux côtés.
Oui, moi je peux comprendre ça, mais je le comprends de moins en moins dans la société d'aujourd'hui.
Oui.
Mais donc ça s'expliquerait aussi parce qu'il n'y a pas de brassage et que les Roms ne rencontrent pas les autres non-Roms. Et pourquoi ne les rencontrent-ils pas? Où est-ce qu'on rencontre les gens qui ne sont pas de son milieu, de sa couleur, de sa religion, etc. Ouais. Quel est l'endroit où on rencontre ces gens-là?
Alors là, justement, il y a un blocage important, c'est, qui est un frein à l'intégration, c'est le manque de suivi scolaire. Généralement, les enfants roms suivent à peu près l'enseignement primaire, et puis après il y a une chute brutale du nombre d'élèves suivant l'enseignement secondaire.
Pas parce qu'on considère que savoir des choses c'est pas bien, ou parce qu'on néglige, ou parce que bon c'est pas très important,
oui,
parce que bof.
Disons que la communauté accorde peu d'importance, disons, à l'école. Et d'un autre côté aussi, dans les pays d'Europe centrale et orientale, les enfants roms, dès le primaire, sont dévalorisés, mis de côté, parce qu'on les envoie notamment dans des écoles, dans des classes pour déficients mentaux.
Oui. Mais alors ça viendrait des autorités qui classeraient les enfants selon leur...
Voilà.
Donc ça c'est très très grave. Mais en même temps, est-ce que dans la communauté rom, il n'y a pas aussi un peu la peur de l'école, de ce qu'elle pourrait changer chez celui qui est rom, parce qu'elle va forcément changer quelque chose.
C'est sûr que l'enfant, ça l'ouvre sur d'autres mondes, et que, il va envie de quitter, en fait, bon, son clan, quoi, un clan familial, parce que, quand même, la structure, des familles roms, c'est encore beaucoup la tribu, quoi, la famille, c'est sacré, etc. Donc, l'envoyer à l'école, suivre donc enseignement secondaire et puis études supérieures.
C'est multiplier les risques.
Ben voilà. Donc de quitter la communauté.
Voilà.
Donc c'est des deux côtés où il y a blocage.
Un tiraillement.
Ouais, voilà.
C'est vraiment une communauté très 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 marquée par son identité, quoi.
Oui.
Qui voudrait être reconnue, mais qui ne cherche pas à se mélanger,
mélanger.
Pour ne pas utiliser le mot intégrer qui veut rien dire, en fait.
Ouais. Bon, notamment si vous allez en Roumanie et que vous traversez une ville roumaine, vous allez tout de suite reconnaître le quartier Rome. Bon, les quartiers Rome, par exemple, dans les villes roumaines, sont situés à la périphérie et tout à fait constitués de bidonvilles. Hein, c'est flagrant, hein, où règne la misère, la pauvreté. Donc voilà, c'est clair. Donc toujours rejeté à la périphérie.
C'était Café Bazar, une émission de Elisabeth et Eric. Aujourd'hui, la situation des Roms en Europe. Première partie, réalisation, prise de son, mixage, Daouda.